Avec Trace et Ensemble, nous allons entendre le commentaire d'Anne Pommette sur le début du chapitre 14 de l'Évangile de Jean, lors du culte du 3 mai, célébré dans la chapelle Sainte-Anne de Saint-Gaudens.
Le texte du jour, Jean 14, je trouve complexe. Il parle de maison, il parle de reconnaissance, il parle de vérité, il parle de vie. C'est Anne qui va nous en faire le commentaire, mais je vais peut-être me permettre de lire pour qu'on se mette dans la complexité de ce texte. C'est une parole d'encouragement pour les disciples. Et les disciples étaient un peu perdus avec ce que Jésus leur dit. « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. » Je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, mais nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment peux-tu dire « Montre-moi le Père » Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi et qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi, au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Et si vous me demandez quelque chose, en mon nom, je le ferai. »
Jésus annonce son départ. Son départ pour un endroit mystérieux. Et face à l'angoisse des disciples, il en appelle à leur foi. Dans l'adversité tragique où tout va se brouiller pour eux, pas d'autre consigne que la confiance. Faire confiance. Plus que jamais, le Maître les invite à la foi. Vous croyez en Dieu ? Eh bien, croyez aussi en moi. Ce n'est pas si évident de passer de la foi dans le Dieu d'Israël qui s'est révélé sans qu'on puisse le voir ni le toucher, au Dieu intégrant la condition humaine en Jésus. La condition humaine qui comporte tant de fragilité, d'angoisse, de doute. En Jésus, Dieu ne s'est épargné ni la souffrance, ni la mort. C'est tout à fait contraire aux représentations que nous nous faisons, nous les humains, spontanément, de la toute-puissance divine. Et c'est bien là l'originalité du message chrétien, qui nous différencie des musulmans pour qui il est hors de question de s'adresser à Dieu comme à un père. Cela aussi nous différencie de la foi de nos contemporains, qui croient volontiers en une divinité bienveillante, mais diffuse dans l'univers, qui ne demande rien, qui ne propose rien, qui n'est nullement engagé dans la destinée humaine, ni dans l'existence singulière de chacun. En Jésus, Dieu a révélé son visage aimant, sa puissance d'amour capable de vaincre les forces du mal, et offrant un sens à la vie, promettant un avenir mystérieux à ses côtés, dans la maison du Père. On comprend la curiosité des disciples et leur difficulté à comprendre de quoi il s'agit. Suivre Jésus, c'est peut-être renoncer à vouloir tout comprendre immédiatement. C'est l'écouter, c'est cheminer avec lui. Jean le Baptiste, Nathanaël, Pierre, Thomas, Philippe, Marie, la mère de Jésus, et les autres, ont dû méditer sur les réponses surprenantes, décalées, énigmatiques de Jésus. À l'inquiétude des disciples qui se demandent ce qu'ils vont devenir sans leur maître, Jésus ne donne aucune consigne pratique, que la confiance. Mais il leur ouvre un horizon, cet ailleurs mystérieux où ils seront avec lui. Et cet ailleurs, il le nomme la maison du Père, dans laquelle il y a de la place pour tout le monde, dit Jésus. C'est réconfortant. Et c'est rassurant pour les disciples dont les relations étaient conflictuelles. Et c'est réconfortant et rassurant pour nous aussi. Les difficiles relations humaines sont la marque de notre condition terrestre. Elles ne sont pas un obstacle à la quête de Dieu. Ce qui importe, c'est que les disciples, malgré leurs disputes, restent tous orientés vers la personne de Jésus et désireux de connaître ce Père du ciel auquel ils semblent si intimement liés. Jésus n'a rien contre nos antipathies, mais c'est le versant tourné vers lui que nous avons à aimer en chacun. Et moins nos liens peuvent paraître plausibles, mieux ils signifient une autre présence. Revenons à Thomas et à Philippe, qui, entre parenthèses, posent des questions que tout le monde se pose tout bas. Eux et les autres ont tout quitté pour suivre Jésus. Et ils ont vraiment de quoi être inquiets. Est-ce que Jésus ne va pas s'enfuir et les abandonner? Est-ce qu'il ne va pas simplement partir pour sauver sa peau? Que vont-ils devenir sans leur maître? Ils ont pris de gros risques et ils craignent de se retrouver seuls face à l'hostilité générale. C'est alors que Jésus leur révèle son secret. Mais il faudra attendre la mort de Jésus et sa résurrection pour qu'ils découvrent son identité profonde. Et voici le secret que Jésus leur révèle. Le Père est en moi et je suis dans le Père. Il n'y a pas de plus grande communion. Jésus se déclare totalement uni à celui qu'il nomme son Père, faisant sienne les paroles du Père, faisant sienne la volonté du Père, faisant sienne les œuvres du Père. Cela a de quoi heurter nos sensibilités contemporaines, qui dénoncent à juste titre les pratiques d'un patriarcat multiséculaire et largement partagé par la plupart des civilisations. Les sensibilités actuelles, par réaction, se montre allergique à toute soumission filiale envers la figure paternelle. C'est pourquoi je propose de remplacer la figure paternelle par la figure parentale, père et mère, non genrée. Même si cette proposition est discutable, mais il n'y a rien de complètement satisfaisant de tout ce qu'on peut dire sur Dieu. Parce que Dieu, on ne peut le définir avec nos mots humains. On ne peut enfermer Dieu dans aucune définition. Et c'est heureux, parce qu'on ne peut pas mettre la main sur Dieu. Le Dieu de la Bible s'est révélé de façon très variée au cours des siècles. Dans l'Ancien Testament, on trouve aussi bien un aspect qu'on pourrait appeler viriliste, de la divinité, à travers la figure du chef militaire. N'oubliez pas que pendant des siècles, le peuple croyant, les Hébreux, était centré sur le Dieu des armées. Et le Nouveau Testament, c'est un théologien, un exégète qui a trouvé la formule, c'est Jésus, c'est le Dieu des armées. Vous avez compris le jeu de mots, lui ? Le Dieu des armées. Dans la Bible, on trouve aussi bien un aspect viriliste qu'un aspect antiviriliste. Par exemple, dans le souffle bienfaisant de la création. Moi, j'ai jamais fait d'hébreu, mais je sais que Ruach, c'est l'esprit. L'esprit, c'est un mot féminin. Dans la notion d'alliance, associée à la promesse de bonheur faite à Abraham, le père des croyants. Ben, le père, il n'était pas seul, père des croyants. Mais il y a eu des mères des croyantes aussi, des croyants et des croyantes. L'étoile bienveillante guidant vers un pays inconnu. Il y a même une figure nourricière de ce Dieu qui donne la manne, qui frappe le rocher pour faire sortir l'eau, qui donne l'écaille dans le désert. Et il y a aussi la figure tendre du berger qui porte sur ses épaules l'agneau ou la brebis égarée aux malades. Il y a aussi cette figure que pour reprendre Jésus, la poule qui cherche à protéger ses poussins et qui les rassemble sous ses ailes. Donc la Bible a bien été écrite par des hommes appartenant à une société patriarcale et Jésus est né dans cette culture-là. On ne peut pas revenir en arrière, je veux dire, on ne peut pas réécrire la Bible. Il n'en est pas question. On la prend telle qu'elle est. Mais ce qu'il faut voir aussi dans les évangiles, c'est que Jésus, à plusieurs reprises, s'est démarqué de cette figure, multiséculaire et on pourrait dire uniciste. Parce qu'il a souvent, plus d'une fois, donné raison à des femmes qui ont cru en lui, qui l'ont accompagné jusqu'au bout, jusqu'au Golgotha. Et il a réservé l'annonce de sa résurrection à Marie-Madeleine. Il a confié son message à Marie-Madeleine. Retenons, pour finir, retenons seulement que ce lien intime entre Jésus et ce parent céleste, cet amour parental et filial parfaitement réciproque, cette communion aimante qui est une telle puissance de vie qu'elle défie les forces de mort. Peut-être vous-même, avez-vous à un moment donné de votre vie fait l'expérience que quelqu'un de plus grand, quelqu'un de mystérieux est là, agissant mystérieusement dans votre vie, retournant une situation complètement négative et apparemment sans aucune issue. Après quoi, vous avez pu être dans l'émerveillement et reconnaître là l'œuvre du Christ Jésus, l'œuvre du Dieu vivant, l'œuvre du Père aimant. Jean l'Évangéliste, le disciple qu'on dit préféré de Jésus, en tout cas le plus proche sans doute, témoin oculaire, a témoigné que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Retenons la prière que Jésus fait lui-même à ses disciples et qu'il nous fait à nous ce matin. Vous croyez en Dieu ? Croyez aussi en moi.